Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, étude biblique du sermon sur la montagne. Première partie, les béatitudes.
Par rapport à ses paroles et ses enseignements, on a dit de Jésus, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Et c'est vrai que lorsque nous rentrons de plein pied dans le message évangélique, et notamment Matthieu, lorsque l'on rentre dans cette pensée du royaume, on rentre par le sermon sur la montagne. Et c'est un enseignement essentiel. Parce que on s'aperçoit que c'est la base, c'est le fondement du caractère chrétien. Nous ne sommes pas seulement appelés à croire en Dieu par Jésus-Christ, à hériter du salut, mais à porter finalement les fruits qui en découlent. Et le sermon sur la montagne, eh bien, c'est le caractère de l'homme de Dieu, de la femme de Dieu, du serviteur de Dieu, du disciple de Jésus-Christ. Et dans Matthieu, justement, il nous est simplement rappelé, dans la conclusion du sermon sur la montagne, il nous est dit qu'après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité, et non pas comme les scribes. Ça, c'était dans Matthieu, chapitre 28, donc la fin du sermon sur la montagne. Je rappelle, lorsque Jésus a achevé donc de parler de ses discours, la foule, le peuple qui était autour de lui, a été frappé de sa doctrine, car il enseignait non pas comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Donc il y avait un langage qui était tout à fait différent de ce qu'ils étaient, ils avaient l'habitude finalement d'entendre, comme probablement aujourd'hui lorsque nous prêchons l'évangile, confronté ou comparé au langage religieux de notre temps, le langage formaliste de l'Église, enfin du christianisme ou tout simplement de la chrétienté, faite de traditions, de cérémonies, dans l'Église historique, nous pourrions dire. Lorsque nous prêchons l'Évangile, eh bien les gens sont souvent surpris parce qu'ils sont confrontés à un message où il est question de Jésus, naturellement. Il est question de tout de Jésus, de Dieu, de la Bible. Mais ils sont frappés parce qu'ils se disent « ça ressemble pas à ce qu'on a entendu, des sermons, des homélies, enfin toutes sortes de choses très empesées, très… » Voilà. Alors, c'est le même phénomène aujourd'hui. On s'aperçoit que Jésus, dans son temps, comme aujourd'hui, les gens qui sont confrontés avec l'Évangile disent « c'est une bonne nouvelle, c'est quelque chose qui fait du bien, quelque chose qui apporte la joie, qui confère cet appel de Dieu. » Alors que, dans d'autres discours, ça ne résonne plus tout ça. Alors… on va parler, si vous voulez bien, du savoir et du vivre. Savoir, connaître la pensée de Dieu. Et ensuite, quand nous connaissons, eh bien de vivre cette pensée, tout simplement, selon les principes du royaume de Dieu, puisqu'ils sont consignés, condensés à travers ces quelques lignes. Il y a trois vérités concernant l'interprétation du sermon sur la montagne. Trois vérités. D'abord, ça peut-être être assez étonnant, mais il ne s'agit pas ni de guide, ni de méthode, ou encore de recettes, de bonnes œuvres en vue de gagner son ciel. Ça, c'est important, parce que c'est bien souvent le monde religieux traditionnel a interprété les choses de cette manière. Mais je le dis bien que ce n'est pas une recette de bonnes œuvres pour finalement accéder au ciel. La réflexion, quelque peu approfondie comme nous allons nous y livrer pendant ces quelques semaines, démontre que personne, je dis bien personne, ne peut être sauvé par sa propre justice. Parce que vous remarquerez, au fil des lignes ou des pages ou des versets que nous allons entrevoir, eh bien il n'est pas question de propre justice. Et Jésus va justement s'élever sévèrement contre la nature humaine qui veut faire par elle-même, car les exigences divines vont au-delà de la bonne volonté humaine. En fait, le salut que le sermon sur la montagne présente n'est pas autrement que l'homme est irrémédiablement perdu. Donc il nous place tout de suite devant la réalité de notre misère, de notre péché, de notre perdition, et c'est une déclaration formelle, l'homme est perdu à cause du péché, mais, et ça c'est important, il peut être racheté sur la base de la foi et du don en Jésus-Christ, justifié par la pure grâce de Dieu. C'est ça le sermon sur la montagne. Uniquement parce que Dieu a donné son Fils. Et qu'en croyant en lui, eh bien, nous ne sommes pas sauvés par notre propre justice, par nos bonnes œuvres, par nos mérites, mais tout simplement par la foi. Et voilà, eh bien, ce que Jésus a voulu transmettre aux hommes de son temps et également à nous-mêmes dans notre monde d'aujourd'hui. La deuxième vérité concernant l'interprétation de ces paroles, c'est que le sermon sur la montagne est une déclaration de principe qui repose sur le royaume de Dieu pour le temps présent, ça nous concerne nous aujourd'hui dans notre vie quotidienne, et nous prépare pour la dimension éternelle. Vous allez le découvrir, parce que quand on se souvient un peu de tout ça, on va voir que c'est pratique pour notre vie d'aujourd'hui, comme c'était pratique pour ceux qui l'entendaient du temps de Jésus et à travers tous les âges, mais ça ne s'arrête pas là, c'est quelque chose qui nous prépare aussi pour la dimension éternelle. C'est un message assurément qui traverse les siècles, les générations, les modes, et on peut dire que le sermon sur la montagne est toujours actuel. Il n'est pas obsolète. Lorsque nous considérons les principes que Jésus met devant nous, eh bien nous disons que c'est pour l'homme du XXIe siècle. Dans le contexte de modernité, le contexte de technologie, enfin bon, de toutes les avancées de cette humanité, qui n'en finit pas finalement d'inventer ou de réinventer, je ne sais pas. Mais toujours est-il que lorsque nous sommes replacés devant les paroles de Jésus, eh bien c'est pour nous précisément. Le troisième point, c'est un point important, c'est que le sermon sur la montagne n'est pas un simple exposé, perfectionné et corrigé de la loi mosaïque. Je rappelle et je dis que ce n'est pas quelque chose, une amélioration, quelque chose qui aurait été donné en plus de la loi mosaïque, donc ce n'est pas un exposé perfectionné ou qui aurait été corrigé pour une cause ou une autre. Il dépasse de beaucoup la justice légale, c'est autre chose, même s'il tire ses racines, naturellement, de ce que Dieu a déclaré par la bouche de Moïse. La loi y est élevée au niveau spirituel, c'est pas seulement de faire, mais de le faire dans un état d'esprit, de le faire dans un cœur qui a été régénéré et dans une compréhension éclairée par le Saint-Esprit. Dans l'Épître aux Corinthiens, 2 Corinthiens au chapitre 3 et au verset 6, je rappelle le principe que vous connaissez naturellement. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue. Et vous pouvez me donner la suite, c'est que l'esprit vivifie. Voilà. Donc le sermon sur la montagne, ça c'est un point essentiel qui doit être souligné. Le sermon sur la montagne rend à la pensée de Dieu son vrai sens et sa vraie valeur comme réalisable et à la portée de l'homme de bonne volonté. Autant la loi, et nous en reparlerons en son temps, autant la loi, eh bien, dans sa perfection, dans sa totalité, dans tout ce qu'elle peut, eh bien, être d'idéal, de sainteté, est inaccessible aux hommes. La parole est claire, celui qui pèche contre un commandement pèche contre tous les autres. Mais le sermon sur la montagne, alors, va rendre la pensée de Dieu sa juste valeur. Parce que, avec la grâce de Dieu dans la foi, eh bien, cette pensée est réalisable dans la mesure où nous voulons véritablement montrer, eh bien, cette aspiration profonde à être conduit par Dieu et à marcher à la suite de Dieu. Quelle différence entre la promulgation de la loi sur le mont Sinaï et le discours de Jésus sur les collines de Galilée ? Il y a une similitude, si vous voulez, ce sont des montagnes, des collines, mais il y a une grande différence. Ce qui nous amène, c'est toujours l'introduction que je suis en train de donner, c'est toujours à souligner. Il y a la foi d'un côté et il y a la loi de l'autre. Il y a le devoir ou l'amour, la servilité ou l'abandon confiant, tout simplement et serein, entre les mains de Dieu. Voilà. C'est une question de positionnement, en quelque sorte. Qu'est-ce que je choisis? Qu'est-ce que je veux? Et cet exposé que nous allons parcourir, eh bien, va nous aider à comprendre, va nous aider à désirer, à aspirer, à avoir faim et soif, eh bien, de cette pensée. Une autre question, pour qui est le sermon sur la montagne? Il est fait pour qui? Pour qui est-il? Eh bien, la réponse est simple, pour ceux et celles qui l'écoutent et le mettent en pratique. Voilà. Il faut seulement bien comprendre qu'il ne s'agit pas seulement de dire « Amen », mais il faut le vivre. Alors, à ce moment-là, ceux et celles qui sont dans ces dispositions et dans ce mouvement, en quelque sorte, peuvent prétendre, par la foi, ou dans la foi et par la grâce, faire partie de ce royaume. Et nous pouvons assurément, en tant que chrétiens repentis, nés de nouveau convertis à Jésus-Christ, dire « Eh bien, je suis un fils et une fille de Dieu. J'appartiens au royaume de mon Père céleste. » Et c'est une assurance, c'est une certitude que nous avons dans notre cœur, puisque nous sommes avant tout, non pas des chrétiens de tradition, mais des chrétiens d'expérience. Ça, c'est une chose qui est bien entendue. Jésus définit la règle royale de la vie qui doit guider et déterminer la conduite de chacun, et faire de Christ son Sauveur et son Seigneur. Sauveur de notre âme et Seigneur de notre vie. C'est important cela. On remarque que Jésus parle souvent d'œuvres et de récompenses, mais il faut le comprendre comme le fruit d'une nouvelle naissance et d'une transformation de caractère. C'est ainsi que les choses peuvent être abordées quand il est question d'œuvres, que l'on appellerait des œuvres bonnes, pour ne pas dire des bonnes œuvres, parce que je ne voudrais pas qu'il y ait une connotation avec eh bien, tous ces enseignements que nous avons reçus, pour certains d'entre nous, et de récompenses. Mais ça, c'est à prendre en considération dans la mesure que c'est le produit, véritablement, d'une transformation de notre vie. Les œuvres acceptables aux yeux de Dieu sont une vie de foi conséquente tout autant que son contraire trahit une foi ou un engagement hypocrite. Parce que si nous ne vivons pas les principes du sermon sur la montagne, nous pouvons toujours dire que nous avons la foi, que nous faisons partie d'une église, etc. Mais c'est tout simplement se tromper soi-même, puisque tôt ou tard, cette position va trahir, en quelque sorte, va révéler, c'est vrai, une foi ou un engagement, mais qui ne sera pas dans la vérité. Parce que pour bien comprendre ces choses, il faut les vivre, tout simplement. Une dernière chose sur cette introduction, c'est que Jésus qualifie l'homme qui met en pratique et qui connaît la volonté de Dieu, il le qualifie d'heureux. On va le voir maintenant. Il dit que cet homme ou cette femme, c'est un homme heureux, une femme heureuse. Alors, pourquoi Jésus dit-il cela? Parce que c'est tout simplement l'expression de la jouissance, du véritable bonheur de se savoir faire partie du royaume. C'est formidable. On est peut-être très fier d'appartenir à une nation comme la nôtre. Bon, c'est une fierté humaine. C'est vrai. Terrestre. Comparativement peut-être à d'autres conditions dans d'autres pays et sous d'autres régimes. Mais une chose qui est certaine, c'est que nous, en tant que chrétiens, eh bien, c'est une jouissance. Et c'est pourquoi un chrétien doit faire la démonstration. Qui dit jouissance, dit joie, dit bonheur. Et Jésus, en conséquence, parlera d'un état heureux, ce qui a donné le mot béatitude, en quelque sorte. Ce bonheur-là ne dépend aucunement des circonstances extérieures, mais avant tout de l'état de foi au fond de nous-mêmes. Tout simplement, nous pouvons dire, pour conclure tout simplement cette introduction, c'est que nous sommes nés de nouveau. Nous sommes nés de nouveau. Et un chrétien né de nouveau n'est plus finalement ce qu'il était l'homme qu'il était auparavant. Et l'apôtre Paul le marquera avec, nous pourrions dire, des lettres de feu, quand il dira « les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles ». Parce que le principe du sermon sur la montagne était dans la vie de l'apôtre Paul, comme eh bien aujourd'hui il est dans notre vie. Donc, on va parler des béatitudes. Cette étude maintenant commence au chapitre 5, donc du verset 3 à 12. Je vais le lire. « Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui, puis, ayant ouvert la bouche, il enseigna et dit, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Et réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. » Voilà donc pour eh bien, le texte donné, tout simplement. La loi divine atteint son summum au travers des 10 commandements promulgués par Moïse au mont Sinaï. L'Ancien Testament se caractérisait par ces 10 commandements. Le Nouveau Testament est introduit et finalement mis en évidence dans son principe, et bien tout simplement par ce que Jésus nous dit. En ce qui concerne la loi de Moïse, c'était la loi avec toutes ses exigences réalisables. J'en ai parlé tout à l'heure. Irréalisables. Parce que le principe était celui-ci. Je cite, « Celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. » La loi de Moïse. Mais qui pouvait dire, qui peut prétendre encore aujourd'hui avoir réalisé parfaitement, complètement la loi de Moïse? C'est pas possible. Puisque, ne serait-ce que dans les 10 commandements, qui peut dire qu'il n'a jamais menti? Qui peut dire qu'il n'a jamais trompé? Qui peut dire que ceci et cela? C'est finalement eh bien, cet idéal que Dieu place devant nous. Et puis nous sommes tout simplement confrontés avec notre misérable nature, notre péché. Donc, il est dit qu'il vivra par elle, mais on ne peut pas vivre par cette loi, pour la bonne raison qu'elle est irréalisable pour nous. Et contraire, elle nous met à mort. Puisque à chaque fois que je veux faire un effort ou que je veux essayer d'atteindre la réalisation de cette loi, je m'aperçois que je me heurte à ma nature. Et je peux essayer, je peux le faire, je peux faire tous mes efforts, je peux me mortifier, je peux pleurer, je peux faire tout ce qui peut me venir par la tête pour le réaliser. À un moment ou à un autre, je vais la choper. Parce que je suis pécheur, tout simplement. Et c'est précisément devant cette montagne infranchissable que j'ai besoin d'un sauveur. Et j'ai besoin d'être interpellé pour crier à Dieu, pour que quelqu'un vienne m'aider à réaliser cette volonté de Dieu. Donc on connaît un petit peu ce qu'il en est, puisque c'est déjà l'Évangile, ça. La loi, c'est l'effort propre censé procurer le bonheur. Et c'est vrai que s'il n'y avait pas eu de péché dans le monde, on aurait mis la loi de Dieu en pratique, et on aurait été heureux. Parfaitement heureux. Mais, encore une fois, il faut le rappeler, mais rendu impossible par la corruption foncière du genre humain. Autrement, Jésus ne serait pas venu. Il n'aurait pas eu besoin de venir. Une nouvelle page se tourne avec le Nouveau Testament, où les sommets de la spiritualité sont atteints donc avec le sermon sur la montagne prononcé par Jésus. Les premiers mots énoncent les principes du bonheur. Vous remarquerez que le mot « heureux » est 8 fois répété bonheur présent et à venir dans ces fameuses béatitudes. Donc, confronté à deux choses, j'y reviens, la loi et la grâce. Il y a l'apôtre Jean qui résume ces différences en ces termes, et c'est bien écrit. Il est dit « La loi a été donnée par Moïse, et la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Il y a comme une surenchère, la loi, Moïse, mais la grâce et la vérité. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas la vérité dans la loi. Mais c'est comme s'il y avait quelque chose, un superlatif, par la force de ces deux mots, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et on sait très bien, d'après le livre des Hébreux, que Jésus-Christ est supérieur infiniment à tous les patriarches, à tous les sacrificateurs, il est supérieur à Moïse. Donc nous sommes des chrétiens qui vivons dans la nouvelle alliance. En résumé, la loi, c'est le devoir, c'est le commandement, ce sont les ordres et les menaces qui ont été, il faut le reconnaître, exagérément exploités par toutes les religions du monde. Et c'est terrible, parce que nous sommes complètement à l'inverse de la volonté de Dieu qui veut affranchir les hommes, qui veut leur donner une pleine et entière liberté. Or, quand les religions se sont mises à vouloir expliquer la loi, eh bien, comme le peuple d'Israël, comme les Juifs, et ce que Jésus dénoncera d'ailleurs, il dira « mais vous avez changé la loi de Dieu au profit de vos traditions », on s'aperçoit que cette loi sainte, juste, bonne, a été exploitée par l'esprit religieux. Et au lieu d'amener les hommes au salut, ils les ont amenés, eh bien là, au malheur, à la culpabilité, à des impossibilités, à les tenir dans une servilité, à les tenir dans un esclavage. Parce que ça a été mis finalement, eh bien là, dans le détournement, ça a été dénaturé. Alors que la grâce, c'est l'accueil de Dieu, c'est son amour. La grâce, c'est les promesses. Et c'est notre choix personnel et libre, en fonction de la position de notre cœur, qui est oui ou non, en face de cette offre de grâce. L'Évangile nous invite à la foi, à l'abandon, à la confiance, et surtout à se laisser aimer par Dieu. Et je souligne ça, se laisser aimer. Parce que on s'aperçoit que c'est quand même une difficulté. Se laisser aimer par Dieu. Croire que Dieu nous aime. Et pourtant, vous connaissez Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde. Mais quelquefois, nous le désavouons, notre Dieu qui nous aime, parce que nous ne voulons pas nous laisser aimer. Nous sommes toujours en train de trouver des arguments en disant « mais je ne suis pas bien, je ne suis pas suffisamment ceci ou cela, etc. etc. » Et je crois que nous échappons où nous faisons en sorte d'échapper au Seigneur. Parce que ce qu'il veut, c'est de nous aimer. On a des très beaux textes, on y reviendra probablement dans toute notre étude, qui nous montrent tout l'amour de Dieu. Alors, il est dit « heureux ». Jésus déclare « heureux ceux qui, en apparence, sont malheureux à vue humaine ». Et on va expliquer pourquoi. Ouais. C'est curieux, hein, c'est très paradoxal. Parce que l'Évangile, c'est le royaume, les principes du royaume de Dieu sont paradoxaux par rapport aux principes d'une vie humaine ou de la vie des hommes. C'est souvent le contraire. Et ce qui fait que nous avons besoin de nous recycler, nous, par rapport à notre vie, par rapport à notre éducation, par rapport à finalement tout ce que nous avons été jusqu'à maintenant. D'autant plus si nous avons eu une culture ou une éducation religieuse. Alors, c'est ça ce que Jésus dit. Ceux qui se sentent faibles, c'est pour eux. Ceux qui se sentent dépossédés, et la raison de leur bonheur n'est autre que les 8 promesses qui concluent chaque béatitude, c'est-à-dire heureux dans le royaume des cieux, parce qu'ils seront consolés, ils hériteront la terre, ils seront rassasiés, ils obtiendront miséricorde, ils verront Dieu, ils seront appelés fils de Dieu. Ce sont des conclusions et qui sont manifestées par des promesses. Parce que c'est ça le bonheur, le véritable bonheur. Alors, si je peux donner une première conclusion avant de rentrer dans le détail de nos, dans le détail de ces, de chacune de ces béatitudes, je dirais que le bonheur est avant tout un état moral et spirituel. Oui. Contrairement à ce que la vie, comme nous la connaissons, finalement, tente à nous persuader, c'est que si nous avons beaucoup d'argent, si nous avons une situation, si nous avons tout à notre disposition, alors nous pouvons dire que nous sommes heureux, nous sommes des gens heureux, alors que c'est absolument pas cela. C'est un état moral et spirituel, et il ne se trouve nulle part ailleurs. Ce n'est pas dans les religions qui vous prônent le nirvana ou autre chose, vous savez, ces déformations ou ces dénaturations de la croyance qui n'ont rien à voir avec l'Évangile, en promettant le bonheur, l'idéal, etc., etc., une certaine sagesse, enfin bon, tout ce que vous voudrez. Prétendre au bonheur là où Dieu est absent, parce que c'est bien cela, hein, les hommes que nous étions, les hommes qui sont encore en dehors de la connaissance et sans espérance, donc prétendent au bonheur là où Dieu est absent, lorsqu'il est proscrit des vies, lorsqu'il est indésirable dans une vie, dans une existence, ce n'est qu'une utopie, et une illusion. Parce que nous avons constaté l'effondrement tour à tour des grandes idéologies humaines, et elles sont là pour nous rappeler que l'homme ne vivra pas de pain seulement, et de toutes paroles qui sortiront de la bouche de Dieu. Et toutes les idéologies, depuis que le monde est monde, d'une façon ou d'une autre, idéologie politique, économique, et régime d'une façon ou d'une autre, capitaliste, communiste, tout ce que vous voudrez, hein, eh bien c'est une utopie, ce n'est qu'une illusion qui n'a jamais apporté le bonheur aux hommes. Parce que Dieu est absent. Parce que Dieu a été complètement rejeté. Ou l'homme remplace Dieu. Vivre et le bonheur, vivre et bonheur est associé à l'idée d'un Dieu bon qui veut que sa créature soit heureuse. Alors on comprend que le monde entier, autour de nous, et comme toujours, crie son désarroi. Ouais, cherche désespérément le bonheur. Mais le bonheur, et ce qui fait l'objet de nos réunions d'évangélisation, pour ceux qui viennent nous rejoindre, c'est de leur dire qu'il n'est pas en dehors et en l'absence de Dieu. C'est ce qui s'est passé pour notre propre vie. À partir du jour où nous avons entendu le message de l'Évangile et que Dieu nous a fait la grâce d'y croire, alors à ce moment-là, nous avons découvert véritablement que le mot bonheur et la vie dans ce bonheur étaient possibles. Alors on va prendre les choses maintenant les unes après les autres. Le premier point, Jésus nous dit « Heureux les pauvres en esprit ». Pauvres en esprit, le royaume de Dieu est à eux parce que le roi de ce royaume est avec eux, mieux encore, il est en eux. Oui. Vous vous rendez compte que nous vivons quelque chose d'extraordinaire, c'est que nous sommes les sujets d'un royaume, que notre roi n'est pas seulement avec nous dans ce royaume, il est en nous. Et nous sommes son temple. C'est extraordinaire une chose pareille, parce qu'on peut avoir un roi dans un royaume, hein, comme nous avons un président dans notre république. Mais là, c'est encore autre chose. Il est en nous. Nous n'avons pas besoin de le chercher dans un palais ou autre chose. Il est en nous. Il est en eux. Les citoyens ou les sujets de ce royaume ont le langage. Ils ont la mentalité. Ils ont la manière d'être et de vivre du royaume auquel ils aspirent. Et un chrétien, eh bien, c'est quelqu'un dont la vie a été transformée, même le langage. Même la façon de parler, même la façon de se comporter, tout, manière de vivre. Parce que nous avons, eh bien, les principes mêmes de ce royaume. En France, on parle français, en principe. On a une culture qui est la nôtre, hein, parce que nous sommes des citoyens de ce pays. Eh bien, dans le royaume de Dieu, nous sommes citoyens, et nous sommes sujets d'un royaume qui, finalement, eh bien, a sa culture, a ses principes, a toutes sortes de choses. Et quand nous sommes chrétiens, eh bien, véritablement, nous portons cela. Pour y rentrer, rien de mieux que ceux qui se présentent aux portes de ce royaume en tant qu'indigents. Parce que si nous pensons que nous avons la suffisance, que nous sommes suffisants, que nous n'avons besoin de rien, nous n'y rentrerons jamais. Donc, on s'y présente comme indigent, conscient de la grâce qui nous est faite d'y rentrer, parce que c'est un insigne privilège, qui n'est pas notre choix, mais le choix de Dieu. Après, c'est notre choix, naturellement, d'y répondre. Et conscient de notre dénuement spirituel. Nous pouvons être riches, nous pouvons avoir des capacités, des talents. Mais si nous prenons conscience qu'il nous manque l'essentiel, comme le jeune homme riche, où Jésus lui dit « te manque une chose », alors à ce moment-là, eh bien, nous comprendrons que ce que nous avons besoin et ce que nous trouverons dans ce royaume, c'est la dimension spirituelle. Jésus ne prône pas la pauvreté comme une vertu. Ce n'est pas parce qu'on est pauvre qu'on rentre dans le royaume. On peut être pauvre et avare, aigri et méchant. Donc, ce n'est pas une question de pauvreté au sens où ce mot nous le désigne. C'est se sentir pauvre dans sa vie intérieure et soupirer après les vraies valeurs. On ne les connaissait pas auparavant. Le jour où on nous les a révélées par l'Évangile, par une prédication, d'une manière ou d'une autre, on s'est dit, c'est ça ce que j'ai besoin. C'est ça ce dont j'ai besoin, c'est ça ce que mon cœur désire et aspire. C'est le sentiment de ce que l'on est réellement. Ça s'appelle la conscience, conscience d'être. C'est peut-être caché aux autres, mais ces sentiments qui naissent dans notre cœur, confrontés avec les principes de ce royaume, eh bien, nous préparent à la repentance, vont commencer à faire une œuvre pour rabaisser notre orgueil, en pensant que quelqu'un a plus raison que nous, c'est Dieu naturellement, que finalement tout ce que nous croyons être dans cette vie, nos réussites, vous vous souvenez que Paul a dit, moi je considère ces choses maintenant comme de la boue, c'est une petite parenthèse que je fais, mais toute notre image de marque, et tout ce que l'homme imagine paraître, eh bien, et qu'il n'est pas, parce qu'il va être confronté finalement, que ce qu'il croyait être, eh bien, c'est rien du tout tout cela. C'est le détachement de toutes les vanités et les futilités de l'existence. Et on a vu des conversions des hommes et des femmes qui, confrontés avec l'Évangile, alors qu'ils étaient légers, qu'ils étaient frivoles, superficiels, sont devenus tout à coup, avec une prise de conscience, parce qu'ils avaient besoin de cela, eh bien, des gens qui étaient complètement changés et transformés. Il nous est parlé de pauvres d'esprit. Et vous me l'avez souvent entendu dire, il ne s'agit pas de simples d'esprit, naturellement. Parce que c'est un argument qui a été utilisé pour ridiculiser l'Évangile. Souvent, on nous a sorti, ah oui, heureux les simples d'esprit, enfin, pauvres en esprit, simples d'esprit. Un chrétien, c'est quelqu'un qui ne raisonne pas beaucoup, c'est quelqu'un qui ne doit pas avoir grand-chose dans sa tête. C'est comme ça. Mais ça, c'est une preuve, et pour que vous vous en souveniez, si on vous le sort un jour ou l'autre, c'est une preuve que ceux qui disent de telles choses, donc les détracteurs de ce royaume, ne possèdent pas l'intelligence voulue pour saisir la portée de ces paroles. Il faut leur retourner ça. Je suis en train de vous donner une arme. Il faut leur dire, bah oui, mais bien sûr, vous avez raison que nous sommes des simples d'esprit. Mais vous, vous n'avez pas l'intelligence pour le comprendre. Parce que si vous le compreniez, vous ne pourriez pas tenir ce langage. C'est normal. Parce que Jésus le dit. Et moi, je vous rappelle les paroles que Jésus nous a laissées à ce titre. Écoutez bien, Père, je te loue de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, enfin ceux qui se croient sages et ceux qui se croient intelligents ou supérieurs, et de ce que tu les as révélés aux enfants. Oui. Pauvre l'esprit. Le royaume des cieux est à eux, parce que le roi des cieux est avec eux, et parce que le roi des cieux est en eux. Et c'est pour cela que l'entrée dans ce royaume est réservée selon ce que la Bible nous dit, où Dieu dit, déclare, « Je suis avec l'homme contrit et humilié. » Et c'est comme ça qu'on rentre dans le royaume de Dieu. Jésus a raison quand il dit « Heureux les pauvres en esprit. » Deuxième point, « Heureux ceux qui pleurent. » On pourrait traduire « Heureux ceux qui se lamentent. » Donc, tristesse qui a pour cause une quelconque souffrance. Eh oui. Alors c'est la part et c'est le lot de tous les hommes, chrétiens ou non, c'est vrai. Mais il y a des gens, même s'ils pleurent, ils n'ont aucune aspiration à être aidés de Dieu ou à ce que Dieu leur parle. Alors pleurer, Pleurer, qu'est-ce que ça veut dire? Pleurer parce qu'on a mal. Ce peut être la maladie. Ce peut être l'infirmité. Ce peut être les complexes. Ce peut être également le sentiment d'infériorité. Mais ces sentiments sont toujours par comparaison à ce que nous avons autour de nous. Mais méfions-nous. Si nous avons des comparaisons parce que nous sommes dans le royaume, c'est avec les principes du royaume, pas avec les principes du monde. Parce que si nous regardons aux principes du monde, nous allons être très très malheureux en tant que chrétiens. Ça, c'est clair. Alors, c'est vrai que ceux qui pleurent, c'est peut-être à cause du péché également. Parce que nous restons quand même, malgré tout, finalement avec cette nature. C'est peut-être par le manque d'amour. C'est une grande question. Je crois que beaucoup viennent à Dieu parce que justement, ils ont besoin de cet amour supérieur, celui qu'on appelle agapé. La solitude et puis toutes sortes de choses. J'ajouterais que pleurer n'a jamais été un remède si tant est vrai que cela soulage. C'est vrai. Pleurer, ça fait du bien, quelquefois. Il faut faire attention que ça ne devienne pas une prison non plus. Hein, et une complaisance à un moment donné. Et de ne pas pouvoir s'en sortir. Mais pleurer devant Dieu, puisqu'il est question de heureux ceux qui pleurent. On a des exemples de différentes, pour différents mobiles. On a Anne, par exemple, qui pleurait. On a Pierre qui a pleuré, pour une autre raison, son péché. On a même Jésus qui a pleuré. C'est ce savoir, pleurer devant Dieu, c'est ce savoir vu et ce savoir entendu, finalement, de notre Père Céleste. Ouais. Si je pleure, je ne pleure pas devant les hommes, je pleure à cause de ma misère, de ma souffrance, pour les raisons que nous avons évoquées, mais je veux croire que mes pleurs ou mes prières mouillées de mes larmes sont entendues et vues de Dieu dans la mesure où il y a la foi. Bien entendu. La souffrance devrait nous rapprocher de Dieu et non nous révolter. Nous révolter contre lui. Alors il y a une belle promesse qui s'attache à ça, c'est qu'ils seront consolés. Mes frères et sœurs, parce que nous appartenons au royaume, déjà ici-bas dans nos pleurs, dans nos larmes, quelles que soient les raisons pourquoi vous vous lamentez et vous pleurez, eh bien moi je voudrais vous dire que il y a votre Père Céleste qui vous console. Nous serons éternellement consolés, mais dans le temps présent, nous sommes consolés. Et vous savez par qui? Celui que l'on appelle le Paraclète, le Saint-Esprit, qui est autrement appelé le Consolateur. Donc, je crois qu'un chrétien, lorsque Jésus dit « Heureux ceux qui pleurent », c'est que je ne veux pas faire de mes pleurs et de mes larmes, comme je l'ai dit tout à l'heure, une prison dans laquelle je vais m'enfermer parce que je montrerai mon incrédulité à ce moment-là. Je ferai la démonstration que mon chagrin est inconsolable. Mais si je veux me laisser consoler, eh bien alors je me laisse consoler par le Seigneur et lui va me donner véritablement la paix au fond de moi-même et une joie indicible et une paix semblable. Ça, c'est extraordinaire. Cette tristesse partagée avec le Dieu d'amour nous conduit toujours à la source du pardon, de la paix et de la vie. Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 21, verset 4, il est dit « qu'il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Troisième béatitude. Heureux les débonnaires. Débonnaire, c'est un mot que nous n'utilisons plus. Ouais, on entend très peu. Hein. Les gens disent autrement. Certainement. Débonnaire, je dis tout de suite que c'est un fruit du Saint-Esprit, un fruit de l'Esprit, et c'est une sagesse, selon Jacques. Je lis simplement le texte pour vous rappeler le contexte. « Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans le cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est pas celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix pour ceux qui recherchent la paix. J'ai bien dit que c'est un fruit de l'esprit et c'est une sagesse. On pourrait dire aujourd'hui, un mot peut-être plus approprié, on pourrait dire les pacifiques. Alors, est-ce qu'on fait référence à l'océan ? Parce qu'il est très large. Peut-être. Un homme qui est bon. Un homme qui est rempli de bonté. Un homme magnanime. Un homme qui peut contenir, à l'exemple de son maître, la hauteur, la longueur, la largeur et la profondeur de l'amour de Dieu. Eh bien, on pourrait dire que c'est un pacifique. Donc, un débonnaire. Parce que les pacifiques, ils démontrent quoi ? Ils démontrent qu'ils ont la force de caractère de ne pas rendre le mal par le mal. Voilà, c'est ça le pacifique. C'est ça le débonnaire. Alors que l'homme irrégénéré, vous connaissez le principe, on en reparlera bientôt quand on abordera le sujet, œil et dent pour dent. Donc, vous connaissez le résultat. Mais le chrétien ne répond pas au mal par le mal. Donc, il est débonnaire. C'est un homme, c'est celui qui est doux de caractère. Et nous avons notre parfait modèle. Pourquoi Jésus est-il présenté comme l'agneau ? Lui qui a dit « Je suis doux et humble de cœur ». Jésus est le débonnaire parfait, il est le pacifique. Posséder cette douceur intérieure signifie s'abandonner à la volonté de Dieu en présence de toutes les violences, de toutes les injustices, et les méchancetés auxquelles nous pouvons être exposés. Que faisons-nous lorsque nous sommes violents avec nous ? Que faisons-nous lorsque on nous inflige des injustices et que l'on nous abreuve de méchanceté ? Qu'est-ce que nous faisons ? On réagit et on réfléchit après. Ou on réfléchit avant. Ou alors nous avons ce caractère spontané de ne pas répondre par le mal. Parce que vous savez que quand on répond au mal par le mal, ça devient une spirale infernale et ça ne peut déclencher que de nouveaux conflits. Hein, et ça ne s'arrête pas. Ça, on appelle ça la guerre, tout simplement. Parce que nous vivons dans un monde de violence où le sentiment et le respect ne sont tenus pour rien. Quand on voit un petit peu ce qui se passe autour de nous, on se dit, mais c'est de la folie. Quand on voit les faits de l'actualité, comme encore ces derniers jours, on se dit, mais quand on voit des brigands et des bandits qui portent plainte maintenant pour avoir été poursuivis par la police parce qu'ils ne s'étaient pas arrêtés à un ultimatum, ils s'étaient enfuis, vous avez entendu parler de ça, hein ? Aïe, 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 ah, ça s'est mal terminé, hein. Mais on porte plainte maintenant. Cette qualité donc de débonnérité s'associe avec la patience à supporter. Et ça ne peut provenir que de notre foi en Dieu. Pas la foi en nous, parce que si je me confie dans ma foi en moi, dans ma confiance en moi, je sors les gants de boxe. Mais si je me confie et que la réaction qui est la mienne, je dis « Seigneur, aide-moi », parce que je me connais. Alors foi en Dieu pour en attendre le secours. Et ce n'est pas véritablement facile. Il y a des caractères qui sont plus aptes à comprendre, mais il y a des colériques, il y a des impulsifs, il y a des gens qui... ça va très très vite quelquefois. Écoutez, lui injurié, maltraité, il s'en remettait à celui qui juge justement. Et c'est difficile d'attendre le jugement de Dieu. C'est difficile d'attendre le verdict du Seigneur. Seigneur, on m'a fait du mal. On m'a discrédité. On a attenté à ma réputation. On m'a mis plus bas que terre. Je me tais, Seigneur. J'ai pourtant envie de faire autrement. Mais je me tais. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il a fait ? Maltraité, injurié, il s'en remettait à celui qui juge justement. Ce n'est pas à moi de faire la justice. Seigneur, tu vas la faire. Et ce n'est pas de la lâcheté. C'est au contraire une preuve de force. Alors, la promesse qui s'attache à cette qualité, c'est qu'ils hériteront la terre. Imaginez-vous. Ils hériteront la terre. parce que c'est véritablement prendre le contre-pied de ce qui se passe dans le monde. Parce que si les hommes emploient la force pour se posséder la terre, Jésus nous dit qu'on la gagne par la douceur. Oui. Depuis les temps immémoriaux, les hommes ont fait la guerre à outrance pour s'emparer de la planète et devenir les rois de cette terre, sur les nations, sur les peuples, avilissant, asservissant, contraignant, détruisant, ruinant la vie sur la terre, pour s'approprier justement cette terre. Eh bien, Jésus nous dit tout le contraire. C'est pas par la guerre, c'est pas par la force, c'est pas par la puissance, mais c'est par la douceur. Faut le comprendre, hein. Pas évident, hein. C'est comme ça. Quatrième point. Ça va, vous? Oui, on continue un petit peu parce que je peux m'arrêter quand vous voulez. Hein, on a jusqu'au mois de juin, alors si. J'espère que vous avez apporté les provisions. On va tenir un siège. Alors, on continue. Heureux ceux qui ont faim et soif, justement. Ça tombe bien puisque je parle de provisions. Alors, Jésus nous dit ces paroles. Faim et soif, deux. C'est un ardent désir des vraies valeurs spirituelles, d'abord pour nous-mêmes. Seigneur, j'ai faim et soif. Avec ce ressenti de nos lacunes, qu'on ne peut pas se contenter par soi-même ou tout seul, mais c'est aussi cet ardent désir pour le monde, car à cause de la corruption, tout est imprégné d'injustice, d'erreur, de malveillance et de mensonge. Parce que le mal qui existe dénature tout. Et nous, nous sommes confrontés, nous les enfants de Dieu, mais même d'autres gens qui sont en dehors, aspirent profondément à l'établissement de cette justice qu'ils appellent de tous leurs vœux, de tous leurs efforts, avec leurs lois et tout ce que voudraient. On aspire à un monde où il n'y aura plus d'erreur, où il n'y aura plus de malveillance, mais la malveillance sera remplacée par la bienveillance, où le mensonge aura disparu et on ne tiendra que le langage de la vérité. C'est utopique, hein, sans Dieu, hein, mais c'est réalisable avec le Seigneur. Parce qu'on sait très bien qu'on vit dans un monde qui est tout imprégné de mal. Et Jean a tout à fait raison dans son épître quand il écrira ces paroles que le monde entier gît dans le malin. Vous vous rendez compte, il est avachi dans la boue, dans la corruption. La vraie justice proposée n'est pas celle des hommes. Imparfaite et partiale, même quand elle est bonne, elle reste toujours en deçà. Mais celle qui accepte la volonté de Dieu, et c'est pourquoi Jésus, et nous y reviendrons plus tard, dira tout simplement « Que ta volonté soit faite. » Sur la terre, comme elle est faite au ciel. Mais cela par une transformation, et uniquement par une transformation des cœurs et des consciences. Autrement, ce n'est pas réalisable. Alors ceux qui ont faim et soif, ceux qui attendent, ceux qui aspirent, ceux qui soupirent, ceux qui prient, eh bien, ils seront rassasiés. Nous serons rassasiés, en d'autres termes, nous connaîtrons la satisfaction et nous serons comblés, complètement et totalement. Et déjà connaître Jésus ici-bas comme sauveur est la réponse à cette faim. Oui, d'ailleurs, il l'a bien illustré quand il a dit « Je suis le pain de vie ». Oui, « Je suis le pain de vie ». C'est la réponse à cette faim. Parce que nous nourrissons de sa parole, foi en sa parole, qui nous amène à la repentance et à l'acceptation de son salut. Et à partir du moment où nous avons franchi le pas de ce salut, eh bien, il comble notre faim et notre soif. Le chrétien connaît et pratique la justice, celle qui provient de la vérité de ses actions, de ses paroles et de ses pensées. Parce qu'à ce moment-là, nous épousons finalement les actions selon le modèle de Jésus. Nous épousons les paroles qu'il nous a données et nous épousons ses pensées. Elles deviennent nôtres et elles ont pour possibilité, elles ont pour capacité, elles ont pour vertu de combler notre faim et notre soif. C'est pour ça que vous venez si souvent aux réunions, vous lisez votre Bible tous les jours, vous le priez pour qu'il vous nourrisse. Voilà, faim et soif. Encore une. On ne sera qu'à la moitié des béatitudes, d'accord ? Je crois qu'on va rester jusqu'au mois de décembre 2010. Ben, vous savez que je resterai jusque-là, alors, en tous les cas. Alors, heureux les miséricordieux. Ce sont ceux qui ne pensent pas seulement à leur propre misère, mais à celle des autres hommes. Oui, heureux ceux qui sont miséricordieux. Quand on a souffert soi-même, on peut sympathiser avec la misère d'autrui. Et on s'aperçoit dans le caractère naturel de l'espèce humaine que les gens qui n'ont pas souffert sont impitoyables avec les autres. Tu devrais faire, moi j'y arrive, alors tu dois y arriver aussi. Secoue-toi, remue-toi, etc., etc. Mais quand on est passé par la maladie, quand on est passé par des infirmités, quand on est passé par des revers de fortune, par toutes sortes de choses, alors à ce moment-là, je crois que ça nous donne un cœur un petit peu plus disposé. Et je dirais que le mot compassion, compassio en latin, c'est tout simplement, c'est aimer par l'expérience. Ouais. Aimer. Aimer, c'est pas facile. Parce que, quelquefois, Dieu nous confronte avec cette injonction d'aimer avec des gens qui ne sont pas forcément aimables, qui ne sont pas forcément faciles à aimer. Mais remarquez, vous savez, si le Seigneur nous a aimés, c'est pas parce qu'on était vraiment dignes d'être aimés. Il nous a aimés dans notre péché. Hein. Il nous a aimés tels que nous étions, dans nos révoltes, dans tout cela, mais il nous a aimés quand même. Quand il est parlé des compassions de Dieu et des compassions de Christ, eh bien c'est ça dont il s'agit. C'est aimer par l'expérience. Et Jésus nous a aimés par l'expérience de cette venue ici-bas sur la terre pour nous sauver. Et il a connu tout ce qu'un homme peut connaître de souffrance, de blessure, de toutes les choses qui existent dans l'existence des hommes. Et il peut nous comprendre. Quand on a expérimenté combien Dieu est bon avec nous, alors on peut pratiquer pour nos semblables ce qui nous a été fait à nous-mêmes. Alors aimer, il en découle quelque chose qui est aussi un grand secret du sermon sur la montagne, une grande révélation du sermon sur la montagne. Je dis bien, alors on peut pratiquer pour nos semblables ce qui nous a été fait à nous-mêmes, et aimer, ça signifie aussi pardonner. Parce que le pardon, c'est la clé. Et aimer et pardonner, ça va ensemble. Pardonner et aimer sont associés. Et vous savez ce qui nous arrivera si nous sommes miséricordieux? Vous l'avez devant les yeux dans votre Bible. Nous obtiendrons miséricorde nous-mêmes. Vous savez que Jésus a donné des paraboles très très pertinentes hein, de ses serviteurs, du serviteur impitoyable vis-à-vis de son compagnon. Il le prend au collet et puis il veut lui faire rendre quelque chose... C'est terrible, ça. Et puis, il y en a d'autres comme ça. Si nous savons l'être en tout temps, donc miséricordieux, on nous fera grâce en cas de besoin. Parce que peut-être qu'on est bien aujourd'hui. On n'a peut-être pas besoin d'avoir la miséricorde des autres, parce que bon, rien ne se présente. Hein. Mais il arrivera, parce que nous sommes que des hommes, qu'un défaut, une patte de travers ou des choses comme ça. Vous savez, hein, je crois qu'il faut être très prévenant, très bienveillant avec les autres. Parce que peut-être un jour, nous serons dans la situation de d'autres et on aura besoin d'avoir ce regard d'amour et de compassion et de miséricorde. Et si on l'a refusé aux autres, peut-être qu'on va nous renvoyer l'ascenseur. Parce que Jésus le dit d'une manière très claire, on vous mesurera avec la mesure que vous aurez mesurée pour les autres. Et en plus, quand vous serez mesuré, il nous est même dit que cette mesure sera bien tassée, secouée, et elle débordera. Alors attention. Hein, ça, c'est aussi le sermon sur la montagne. On y reviendra. Ils obtiendront donc miséricorde. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. C'est formel. Hein. Soyons remplis d'amour et de miséricorde. Ce n'est pas une faiblesse, ce n'est pas une reculade, ce n'est pas se défiler. C'est tout simplement avoir le caractère de Christ au fond de nous-mêmes. Oui, dans le monde, on montre le front, haut, orgueilleux, et on dit « je ne céderai pas ». Eh bien, dans le royaume de Dieu, contrairement à ce que l'on pourrait penser, on y reviendra lorsqu'il s'agira de la joue, du manteau, et de faire un mille avec nos ennemis. Vous verrez. Ce n'est pas un déshonneur, mais c'est à la gloire de notre Dieu, parce que je le répète, le roi de ce royaume n'est pas seulement avec nous, il est en nous et il nous inspire nos réactions et nos sentiments. Que Dieu nous bénisse ce soir.